point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Henri Moisé, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, un symbole contradictoire, point d'interrogation.
Il y eut une fille appelée Jeanne.
Extrait de l'oratorio de Arthur Honegger et Paul Claudel, Jeanne au bûcher. Henri Moisé, pourquoi ce thème ?
Bien, je crois que l'actualité a fait ressurgir une polémique autour de Jeanne d'Arc. Et cette polémique actuelle est dans le prolongement de ce que pendant des siècles, je crois, la personne de Jeanne d'Arc a provoqué. Débat, polémique entre la légende et l'histoire, entre le mythe et la réalité. Jamais sans doute un personnage historique de notre pays a autant soulevé des débats, des contradictions, et n'a été l'objet d'autant de récupérations. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, justement, c'est cette instrumentalisation du personnage à la fois par des partis contraires, que l'on soit républicain ou monarchiste, que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit, dans les années 40, collaborateur ou résistant, ou que l'on soit écrivain, vous voyez, d'un côté Maurras, de l'autre Anatole France. Et je crois que la polémique d'aujourd'hui nous permet de revenir sur cette annexion d'une certaine mémoire qui ne repose sur aucune réalité historique. Et c'est, je crois, le moment de clarifier certaines choses, à la fois pour montrer que ce qui se passe aujourd'hui est bien le fruit d'une longue histoire et qu'il est temps peut-être de clarifier tel ou tel aspect.
Alors, quelles ont été les images et portraits successifs de Jeanne d'Arc ?
Oui, au-delà de la personne elle-même, de son épopée, de son rôle dans la guerre de Cent Ans, très court d'ailleurs, dans le temps, entre 1425 et 1431, les images se sont succédées, les portraits successifs et les représentations mentales. Au XVe siècle, après la mort de Jeanne d'Arc, très peu d'images circulent. Certes, elle fait partie des héros, mais Charles VII intervient peu, sinon, pour engager un procès en réhabilitation. Le XVIe siècle donne une autre image, beaucoup de fantaisie, pas toujours fondée sur l'histoire, mais déjà se créent certaines polémiques au moment des guerres de religion. Les protestants, par exemple, saccageant les statues de Jeanne d'Arc qu'ils rencontrent. Au XVIIe, l'image de Jeanne d'Arc change. C'est une femme parée de certaines vertus qui est montrée. des ouvrages lui sont consacrés. On assiste à une première vraie glorification, au même titre que peut l'être Bayard ou du Guesclin. Mais ce que l'on admire surtout en elle, ce sont les vertus guerrières, et moins les vertus chrétiennes ou la personne tragique mourant sur le bûcher. Mais il y a aussi le mythe qui s'instaure, mythe d'ailleurs parfaitement contrôlé par la monarchie absolue de Louis XIV, qui n'entend pas évidemment avoir des images concurrentes. Mais dans le peuple, dans le bas peuple, Jeanne d'Arc semble bénéficier d'un certain culte qu'on a du mal à préciser. Au XVIIIe siècle, avec l'esprit philosophique, commence une entreprise iconoclaste, notamment celle de Voltaire, avec son ouvrage qu'on ne peut pas recommander à toute personne sensible, et La Pucelle d'Orléans, où il démontre évidemment une vierge, disons, sans les valeurs habituelles annoncées. L'encyclopédie elle-même de Diderot la présente comme une petite folle manipulée par les cléricaux. Néanmoins, en ce XVIIIe siècle, certains ont une approche un peu plus érudite, un peu plus scientifique de l'histoire. Et la Révolution et l'Empire qui suit commence une récupération politique. Je vais vous en donner la preuve par une courte citation d'un conventionnel, Dieu sait s'ils étaient violents, Meunier, qui dit: cette fille extraordinaire, si elle eût vécu de nos jours, aurait monté avec nous à la prise de la Bastille et à la destruction d'un trône horriblement entaché de trahison et de sanglants parjures. Faire de Jeanne d'Arc une alliée de la Révolution, c'est assez surprenant. Au XIXe siècle, s'impose alors l'image, le stéréotype qui va désormais durer. C'est l'héroïne de la patrie et le modèle de vertu. On est là dans une vision totalement idéalisée qui commence avec la Restauration, qui va s'amplifier sous le Second Empire, dans les années 1850, et qui va être alors figée pour de longues années après la défaite de 1870, où Jeanne devient la bonne Lorraine. Elle devient la sainte laïque, la sainte de la patrie, y compris une sainte, je dirais, républicaine, qui va incarner de nouvelles valeurs. C'est une image populaire qui se généralise et qui va, pour longtemps, devenir un enjeu de mémoire entre d'un côté les républicains et de l'autre les monarchistes, puis les républicains anticléricaux ou du moins athées, et l'Église catholique qui entend, elle, en faire la sainte Jeanne d'Arc. Donc on est entré dans une politisation à outrance que les années suivantes vont amplifier.
Alors justement, une récupération importante de Jeanne d'Arc, c'est celle opérée par l'Église.
Oui, et là, surprise. Comment se peut-il que cette Jeanne d'Arc puisse être revendiquée par l'Église? Parce qu'il y a un vrai problème, c'est quand même l'Église, par un tribunal d'inquisition, qui l'a condamnée à mort et livrée au bûcher. Bon, c'est quand même l'Église qui l'a réhabilitée en 1456 à la demande de Charles VII. Et c'est l'Église qui, à partir de 1874, à la demande de Mgr Dupanloup, va engager un procès en canonisation. Cela va durer de longues années, puisque ça ne se terminera qu'en 1920. Alors, pourquoi cela? Au départ, et au risque de choquer, Jeanne est une création. L'exploitation de Jeanne dans notre histoire est une création de la gauche républicaine, qui est notamment à partir de l'historien Michelet, qui dans son tome 5 de l'histoire de France en fait la sainte de la patrie. Évidemment, il n'y a rien de religieux, mais il lui reconnaît des vertus et surtout il en fait la fille du peuple. Et c'est cette image de Michelet, très romantique, qui commence à inquiéter l'Église dans la mesure où la personne de Jeanne risque de lui échapper. Et d'où la riposte sera d'en faire, en opposition à la sainte de la patrie, une sainte laïque, d'en faire une sainte sur les autels. avec les vertus religieuses qui conviennent, d'autant plus que, selon que l'on est d'un camp ou de l'autre, on a une interprétation fort différente des voies dont parlait Jeanne, qui l'aurait conduite, Saint-Michel, Sainte-Catherine, qui l'aurait amenée à agir pour sauver la monarchie. Et donc, dans cette république des naissantes, ou en cours de gestation des années 1870-1879, Monseigneur Dupanloup lance, il est évêque d'Orléans, il se croit donc autorisé à agir ainsi, il lance l'éloge de Jeanne et ce procès en canonisation qui lentement, avec, je dirais, courage parfois, car l'Église n'hésite pas à se servir et des textes de Michelet et des textes du latiniste et historien Quichera, mais en s'appuyant sur les monarchistes. Il y a donc une récupération là, du phénomène Jeanne d'Arc en vue de déclaration de sainteté contre la République et en faveur du clan monarchiste. Et c'est une course de vitesse qui va se dérouler pendant de longues années, qui aboutit en 1894 à un premier résultat. Jeanne est déclarée vénérable, ça veut dire qu'elle est canonisable potentiellement si le processus d'étude, d'affirmation, de contre-affirmation aboutit. Le premier résultat, c'est sa béatification en 1909. C'est pas le hasard si c'est en 1909, c'est depuis quelques années, la République est devenue anticléricale, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, et cette loi de séparation de l'Église et de l'État, le pape Pie X ne l'a pas acceptée, il l'a même condamnée. Il y a donc une volonté de la papauté, en béatifiant Jeanne d'Arc, de démontrer la nocivité de cette République. Mais puis il y a la guerre 14-18. Et la guerre 14-18 a été un moment d'exaltation et de remise en valeur de l'image de Jeanne. Le consensus est général, que l'on soit clérical ou anticlérical. Et en 1920, on aboutit enfin à la canonisation. Là encore, 1920, ce n'est pas le fait du hasard. Le pape Benoît XV entend, disent certains, se faire pardonner le faible soutien qu'il a apporté à la France, puisqu'il a été beaucoup plus que distant. Et en canonisant Jeanne, cela lui permet évidemment de reconquérir une opinion publique française qui se retrouve majoritairement derrière Jeanne, d'autant plus qu'à ce moment-là, la majorité parlementaire est de droite, hein, c'est la Chambre Bleu Horizon. Voilà, là encore, une récupération, certes, qui peut se comprendre de la part de l'Église, qui n'a rien d'infamant, mais qui démontre toujours les arrière-pensées politiques telles que notre histoire les démontre si souvent.
Joyeux Lorrain, chantons sans fin le refrain plein d'entrain de Jeanne Bergère immortelle du pays de Lorraine. À tous les échos des grands bois que nos voix à la fois chantent l'antique ritournelle pour chanter d'autrefois. Jeanne de la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots, enfant de la plaine, il est en garde dans ses troupeaux. Dit à son jupon de laine avec ses sabots d'ondaine, oh, oh, avec ses sabots.
Jeanne la Lorraine, ses petits pieds dans des sabots, en plein de la plaine, il est en garde dans des troupeaux. Dit à son jupon de laine avec ses sabots d'ondaine, oh, oh, avec ses sabots.
S'en fut guider nos fiers soldats, là-bas, au combat, et fit renaître l'espérance en notre douce France. Lors les Français victorieux, tous joyeux, l'âme aux yeux, chantés partout la délivrance du pays glorieux. Tombe dans colombe. Mais depuis la Maguerie, au nom de Jeanne chérie, ange saint de la patrie, et nous y gardons l'accès, y sommes croisés.
La marche Lorraine, interprétée par Georges Thill. Un petit mot, Henri Moiset, sur cette chanson?
Oh oui, je trouve qu'elle est particulièrement typique de toute notre histoire. On retrouve tous les clichés. La Lorraine, on retrouve les Gaulois, on retrouve les provinces perdues, sous-jacentes, l'Alsace et la Lorraine, et on retrouve évidemment les valeurs qui ont été celles du 19e siècle, parce que tout à l'heure, j'ai insisté sur la politisation. Mais en même temps, derrière cette politisation, il y a une rencontre entre l'image, les stéréotypes qui se sont créés autour de Jeanne d'Arc et le temps qu'il a voulu sainte, c'est-à-dire ce 19e siècle, mais qui est en même temps un moment pour nous de revanche, un moment de patriotisme, voire de nationalisme. Et je crois que cette chanson représente assez bien, hein, par un syncrétisme particulier. Bon, c'est vrai, c'est une marche militaire. C'est peut-être de notre temps, on ne s'y retrouve pas toujours, mais c'est la marque de l'histoire. Et je crois que si l'image de Jeanne s'impose avec autant de force au XIXe siècle, c'est qu'il y a derrière la fille du peuple, il y a la ruralité, il y a la religion. N'oublions pas qu'au moment où on s'engage la canonisation de Jeanne, il y a bien sûr la revanche derrière, hein, pour les républicains. Il y a aussi la terre, pensez à l'Angélus de Millet, qui est le reflet de cette période. Il y a ce que disait Jeanne lors de son procès, le culte du cœur de Jésus. C'est la période du sacré cœur de Jésus que l'on construit. Il y a des rencontres assez fortes. De même, la virginité de la Pucelle, qui correspond bien historiquement au dogme de l'Immaculée Conception. Et là, il y a ces points de rencontre, je dirais sociologiques, culturels, religieux, politiques même, qui font que Jeanne d'Arc reste pour longtemps au cœur de notre histoire, voire de nos polémiques.
Alors justement, Jeanne d'Arc, c'est aussi un enjeu politique entre la gauche et la droite.
Oui, et ce sera le point fort, je crois, de cette émission. En effet, comment se fait-il que Jeanne d'Arc ait autant divisé gauche et droite, quelle que soit la définition des périodes concernées, et pourquoi encore aujourd'hui est-elle l'objet de ces débats? Alors d'abord, premier point, l'origine de Jeanne d'Arc, eh bien, c'est la gauche. C'est elle qui, les historiens républicains comme Michelet, comme Quichera, comme Henri Martin, qui, à partir des années 1840-1850, ont inventé, je dirais, à partir de faits réels, cette image de la fille du peuple, et qui, autour de cette image, ont construit la patrie, voire la nation. D'autres ont ajouté leur touche à cette construction historique par des historiens républicains. Ça peut être Péguy, ou encore Jean Jaurès, qui lui-même, dans son ouvrage L'Armée Nouvelle, utilise l'image de Jeanne d'Arc. Il faut savoir aussi que, parmi les parlementaires, un Aveyronnais, Fabre, député en 1884, puis sénateur en 1894, a été parmi ceux, et non des moindres d'ailleurs, qui ont proposé que Jeanne soit l'objet d'une fête nationale, qui serait en même temps fête du patriotisme. Elle serait, je dirais, proposée comme héroïne de la patrie. Bon, il n'y a pas eu de suite à ce moment-là. Il n'en reste pas moins que ce sont des républicains, dits de gauche à ce moment-là, souvent anticléricaux, qui ont créé cette légende autour de Jeanne. D'où la récupération par les catholiques cités tout à l'heure avec Monseigneur Dupanloup et le procès en canonisation. Ils voyaient évidemment un détournement d'une personne qu'ils voulaient être des leurs, si bien que, en même temps qu'il y a cette récupération, la politisation dans le cadre de la revanche des années 1871 va s'amplifier. Deux faits vont accélérer, et le processus de récupération et le processus, je dirais, antinomique. L'affaire Dreyfus, où dans le cadre de cet espionnage, on accuse un juif, et on en arrive même, évidemment, à accuser beaucoup d'autres mondes, hein, et 1904, où un enseignant à Paris va, dans un cours sur le Moyen-Âge, développer des thèses assez classiques pour les républicains, mais où sa présentation des voix des saints et des saintes qui auraient guidé Jeanne est interprétée d'une façon évidemment suspicieuse, avec des doutes sur l'authenticité, ça va de soi. Et donc, dans ce grand débat autour de Jeanne, lancé par l'affaire Dreyfus, amplifié par le bloc des gauches et la séparation de l'Église et de l'État, l'affaire de ce professeur Talamas, eh bien, on voit se dessiner un conflit, mais un conflit viscéralement violent entre les républicains anticléricaux et les monarchistes ou les conservateurs, genre Barrès, Maurras, et bien sûr le clan des Camelots du roi. On en arrive même avec Déroulède et Jaurès à un duel. Oui, Jaurès s'est battu en duel avec Déroulède à cause de ce grand débat. En 1418, c'est l'Union sacrée, je l'ai déjà dit. La façon dont la figure de Jeanne est utilisée, elle est liée évidemment aux difficultés du moment, mais dans le prolongement de ce qui s'est passé quelques années auparavant, où on liait très fortement patriotisme, préparation de la revanche et Jeanne d'Arc. Ce qui se passe en 14, eh bien on peut le déceler déjà dès 1913 à Sainte-Afrique, où pour les fêtes du 12 et du 13 juillet 1913, dans le cadre de la consécration de la nouvelle église qui venait d'être terminée, eh bien il y a en ville un défilé patriotique et religieux. Vous voyez déjà l'association, et le centre de ce défilé, ce sont les Gaulois, c'est Jeanne d'Arc, ce sont les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. Et on mélange à la fois le religieux et le politique, et on mélange à la fois l'esprit religieux, la fille aînée, France fille aînée de l'Église, et la patrie qu'on défendra s'il le faut. Évidemment, après-guerre, et les tensions politiques, l'image de Jeanne va se trouver à nouveau objet de difficultés, de division. Les ligues récupèrent une Jeanne d'Arc, évidemment nationaliste, dont ils font champion du nationalisme, et la gauche elle-même va, au moins en 1929, se désolidariser, notamment avec les cinquième centenaire de la libération d'Orléans en 1929. curieusement, au moment du Front populaire, on revient à une récupération même par la gauche. Et je peux vous indiquer, par exemple, ce que prononçait dans un discours Jean Perrin, un partisan du Front populaire. On parle de Rassemblement populaire, mais c'est l'antichambre du Front populaire. Le 14 juillet 1935, Jean Perrin dit ceci: « Ils nous ont pris Jeanne d'Arc, sur la droite. Cette fille du peuple, abandonnée par le roi, que l'élan populaire venait de rendre victorieux, et brûlé par les prêtres qui depuis l'ont canonisé. Ils ont essayé de nous prendre le drapeau de 1789. Ils ont enfin essayé de nous prendre cette héroïque Marseillaise. » Donc vous voyez que même Jeanne d'Arc, à la veille du Front populaire, est redevenue de gauche contre une droite ligueuse et anti-républicaine. Avec Vichy et la résistance, on a de nouveau deux images antinomiques. Pour Vichy et pour Pétain, Jeanne d'Arc fait partie des figures tutélaires du régime, comme peuvent l'être Clovis, Bayard, Duguay-Clin ou tant d'autres. Jeanne d'Arc fait partie des figures salvatrices. Et je vous indique par exemple ce que dans une revue pétainiste, sous le titre « Le sauveur providentiel », on peut lire, parmi les personnalités indiquées, c'est Charles Martel qui arrête les Arabes, c'est Jeanne d'Arc qui libère le territoire, c'est Napoléon qui construit la Grande France, c'est Thiers qui rétablit la paix, enfin, mais qui écrase les communards, et c'est enfin Charles Pétain, maréchal Pétain, qui maintient l'unité nationale. Vous voyez que cette image de Jeanne d'Arc est fortement réutilisée, au point que le régime de Vichy instaure la fête de Jeanne d'Arc, qui se déroule entre le 8 et le 12 mai, selon le dimanche concerné. Et cette fête de Jeanne d'Arc, récupérée par Vichy, n'est pas, évidemment, ne peut pas être acceptée par la résistance, qui voit dans Jeanne, au contraire, une image contraire à celle que Vichy entend divulguer, et qui va faire de Jeanne à la fois le symbole de la résistance à l'occupant, la victime d'une cause sacrée. Il faut savoir mourir pour cette cause sacrée. Et voilà ce que disait pour le 12 mai 1941 Maurice Schumann sur les antennes de Radio Londres, et appelant les Français à manifester le 12 mai 1941, fête de Jeanne d'Arc, fête voulue par Vichy, mais que la résistance veut faire journée de protestation républicaine, démocratique et de liberté. Et la voix de Jeanne la Lorraine, plus forte que le tumulte de l'invasion ou que la rumeur des trahisons, leur répétera le vieux cri d'espérance, ce n'est pas pour toujours. L'ennemi est à Domrémy, à Bourges, à Orléans, à Rennes, à Rouen. Partout où elle passa, Jeanne est prisonnière. Mais Jeanne nous dit, ce n'est pas pour toujours. Michelet dit de Jeanne d'Arc, elle aimant la France, et la France touchée se mit à s'aimer elle-même. Cette France qui s'aime elle-même et qui s'est unie pour se sauver, demain, de 10-15 heures à 16 heures, l'ennemi la verra luire dans vos yeux, et l'ennemi baissera la tête. Et cette flamme, c'est l'âme de la patrie vivante, et cela, c'est pour toujours. Voilà un appel en faveur de Jeanne d'Arc, certes pour la résistance intérieure, mais en même temps pour montrer à Vichy que Jeanne ne lui appartient pas, qu'elle est tout autant, parce que Lorraine, et parce qu'il y a la croix de Lorraine, hein, l'image de la France libre.
Aragon a aussi fait référence à Jeanne d'Arc, comme dans ce poème intitulé « Richard II, 40 », lu par Chloé.
« Ma patrie est comme une barque. Qu'abandonner, c'est à l'heure, et je ressemble à ce monarque plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Vivre n'est plus qu'un stratagème, le vent sait mal sécher les pleurs. Il faut haïr tout ce que j'aime, ce que je n'ai plus donnez-leur. Je reste roi de mes douleurs. Le cœur peut s'arrêter de battre, le sang peut couler sans chaleur. Deux et deux ne fassent plus quatre, au pigeon vol des voleurs. Je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meure ou renaisse, le ciel a perdu ses couleurs, tendre Paris de ma jeunesse, adieu printemps du quai aux fleurs, je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines, taisez-vous, oiseaux querelleurs, vos chants sont mis en quarantaine, c'est le règne de l'oiseleur, je reste roi de mes douleurs. Il est un temps pour la souffrance, quand Jeanne vint à vos couleurs, ah, coupez en morceaux la France. Le jour avait cette pâleur. Je reste roi de mes douleurs.
Bien, je crois que, au-delà des discours, la poésie d'Aragon montre bien que même le Parti communiste s'intègre parfaitement dans cette utilisation de l'image de Jeanne, de l'image de la patriote qu'elle fut d'une certaine manière, de la résistance, de la résistante à l'occupant. Bon, l'anglais, on transpose contre l'allemand. On est bien dans un syncrétisme patriotique qui est commun à toutes les forces de la résistance. Et pour terminer cette évocation, je citerai Pierre Brossolette, lui-même grand résistant, agrégé d'histoire, qui en juin 43, dans un hommage aux morts, prononcer cette belle phrase: l'histoire de notre pays n'est qu'une suite de prodiges qui s'enchaînent. Prodige de Jeanne d'Arc, prodige des soldats de l'an 2, prodige des héros de la Marne et de Verdun, voilà le passé de la France. C'est bien la récupération par la résistance, une belle récupération, face à celle de Vichy, qui incarnait évidemment pour la résistance le défaitisme, la collaboration et la soumission.
Alors aujourd'hui, c'est surtout l'extrême droite qui fait usage de Jeanne d'Arc.
Oui, et nouveau problème pour nous, mais là nous sommes les contemporains. En effet, après-guerre, on aurait pu croire que l'image de Jeanne, dans sa sainteté, dans son épopée, voire dans sa légende, resta une image pour les républicains et pour les démocrates. Et bien curieusement, c'est le camp adverse qui l'a récupéré pour en faire son égérie, ce qui peut poser évidemment des problèmes à la fois pour l'historien, pour le citoyen, et voire tout simplement pour tous les gens qui réfléchissent. Les premiers à réutiliser après-guerre l'image de Jeanne, c'est la droite nationaliste et colonialiste. On l'a oublié dans les années 50. C'est constitué autour du général Végan, une alliance Jeanne d'Arc, qui ne manquait pas quand même de soutien. Louis Bérard, André Frossard, enfin. Bon, et curieusement, ça va amalgamer tous les partisans de l'Algérie française. Mais c'est évidemment surtout autour du Front National, autour de Jean-Marie Le Pen, que, ancien poujadiste, Algérie française, que la récupération va se faire la plus grossière et la plus contestable. D'abord, en maintenant le culte de Jeanne d'Arc d'une façon, de la façon que l'on connaît, défilé à Paris, regroupement place des pyramides devant la statue de Jeanne d'Arc, le Front National relie son histoire au passé de l'extrême droite ligueuse des années 30, anti-républicaine. Deuxième élément, en choisissant de manifester le 1er mai, ce qui n'a aucune valeur dans la chronologie de l'épopée de Jeanne d'Arc, enfin, on voit bien qu'il y a la volonté d'attaquer la fête du travail, le symbole, je dirais, de gauche, des syndicats et de la revendication populaire et ouvrière. Ça date de 1988. Autre fait, 1995, quand, dans un discours très dur, le leader du Front National prétend, je cite, « démasquer les mille visages d'une classe politique corrompue et décadente, résignée ou complice de la domination étrangère ». Je crois que là, on résume bien dans cette phrase les pensées et les objectifs de ce mouvement qui, derrière Jeanne d'Arc, entend évidemment attaquer la République et la démocratie, développer l'antiparlementarisme cher aux ligues des années 30, et évidemment dénoncer le parti de l'étranger sous une forme ou sous une autre. C'est assez curieux d'ailleurs d'entendre des gens qui parlent de parti de l'étranger, de domination étrangère, de se faire les champions de la résistance à cela, alors qu'ils ont dans leur rang des collaborateurs au sens des années 40. Passons. Et là, il y a, me semble-t-il, une perversion à la fois pour l'histoire et pour l'intelligence citoyenne. En effet, comment peut-on faire de Jeanne d'Arc, par son histoire et par les valeurs ou les vertus qui lui ont été reconnues par les uns et les autres, le symbole d'un parti qui veut se replier, alors que Jeanne d'Arc, c'est le contraire, d'un parti qui refuse de reconnaître, évidemment, je dirais, l'Europe, ou les ouvertures telles que l'Europe les préconise. Et en même temps, je crois, de vouloir faire de Jeanne d'Arc une sorte de symbole ou de rempart contre, il faut bien l'indiquer, l'émigration, le danger extérieur, ce qui n'est pas du tout, je dirais, dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Au demeurant, on dit qu'elle est lorraine, c'est vrai et c'est faux. Je vous rappelle quand même que la Lorraine, pour Jeanne d'Arc, n'était pas terre française au moment où elle est née, mais était dans l'Empire romain germanique. Donc, passons. Aujourd'hui, je trouve personnellement regrettable que les forces de gauche, les républicaines tout court, laissent, je dirais, cette image de Jeanne d'Arc complètement dévoyée par la récupération qu'en fait l'extrême droite. Certes, il y a eu quelques tentatives, hein. François Mitterrand en 89, Jacques Chirac en 1995, ou plus récemment Sarkozy allant à Don Rémy. Mais là, on est évidemment dans un contexte qui sent une autre forme de récupération. Alors, je crois, pour terminer, que l'image de Jeanne d'Arc, même si elle a été récupérée par notre histoire et par des forces opposées, ne peut pas être complètement dévoyé, qu'il faut revenir à la vraie histoire de Jeanne, telle que l'histoire elle-même, telle que, je dirais, le savoir savant nous la présente, et qu'elle ne peut pas être utilisée comme symbole d'un mouvement xénophobe, raciste, anti-européen, et à plus forte raison, contre tout ce qui est étranger, alors que la France mérite beaucoup mieux que cela.
Est-ce que vous avez quelques conseils de lecture à nous donner ?
Oui, je crois que ceux qui aiment une vision historique et romantique reliront avec plaisir le tome 5 de l'histoire de France de Michelet. Ah, il faut aimer cette vieille façon de raconter l'histoire, hein, de la bonne Lorraine. Mais ça mérite évidemment un détour. Deuxième texte, pour ceux qui préfèrent une histoire un petit peu plus scientifique, mais qui est connotée par la période où elle fut écrite, La vie de Jeanne d'Arc, je le recommande donc, l'ouvrage d'Anatole France, de 1908. Et puis pour ceux qui veulent une histoire plus académique, je le recommande, même s'il est très vite lu, le « Que sais-je ?» sur Jeanne d'Arc, écrit par un universitaire, André Bossuard, c'est le numéro 211. il mérite évidemment un détour. Quant à ceux qui veulent avoir, je dirais, un bon aperçu sur l'instrumentalisation de Jeanne, de son image et des valeurs que les uns ou les autres lui ont attribuées, je recommanderais le numéro spécial de la revue L'Histoire, qui est un numéro de 1997 et intitulé « Jeanne d'Arc, une passion française ».
Ben merci beaucoup, Henri Moisé.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.